d'Europe, animé par Jean-François Biardeau, avec Michel Piau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin.
Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, dans les chroniques précédentes, Daniel, vous nous avez présenté les 7 institutions de l'Union qui sont comme les 7 sœurs. C'est les compagnies pétrolières américaines. Pas tout à fait quand même. Bon. Et donc, alors la Commission, le Conseil, le Parlement européen, le Conseil européen, la Cour de justice, la Cour des comptes et la Banque centrale européenne. Eh bien, j'avais tout retenu, vous voyez. Hein? Alors, est-ce que la gouvernance de l'Union européenne est-elle entièrement assurée par ces institutions? Ou alors, est-ce qu'il y en a encore quelques autres?
Alors, il y en a quelques autres, mais qui ne sont pas des institutions officielles, qui sont ce que l'on pourrait appeler des outils qui aident à la prise de décision. Parmi ces outils, il y a ce que l'on nomme des organes consultatifs de l'Union, dont la vocation est d'assister le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Ils sont au nombre de 2, le Comité économique et social européen et le Comité des régions. Ces comités, j'y insiste, donc, ne sont pas des institutions en tant que telles.
Alors, les 2 comités ont-ils des points communs ?
Ils en ont plusieurs. Ils ont le même siège. Je veux dire, ici, même capitale, hein, Bruxelles. Ils ont la même taille, 350 membres chacun, proposés par les États membres en nombre variable selon les États. Hein, la France a 24 représentants dans l'un et l'autre. La Belgique, 12, et Chypre, 5. Les membres, les représentants ont le même statut, sont désignés pour 5 ans, ils sont indépendants et ils ne sont liés par aucun mandat impératif. Les 2 comités ont la même organisation, une assemblée plénière, un bureau élu en leur sein pour 2 ans et demi et un secrétariat général. Et enfin, ils ont les mêmes fonctions. D'une part, ils émettent des avis, parfois obligatoires, quand le traité le prévoit, parfois de leur propre initiative. Je précise que ces avis ne sont pas contraignants. D'autre part, ils sont un lien entre les institutions et les citoyens européens.
Alors, est-ce qu'il y a des différences entre ces 2 institutions, ces 2 comités ?
Voilà. Il y a effectivement des différences, et, disons 3 grandes différences. La première, c'est la date de création. Le comité européen, le comité économique social européen est dans le traité de Rome, dès 57. Il faut attendre le traité de Maastricht, 94, donc, pour voir naître le comité des régions. La deuxième différence, c'est la représentativité. Le Comité économique et social européen représente les différents secteurs de la société civile organisée. Ses membres sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles et répartis en 3 groupes. Le groupe des employeurs, on est en gros des patrons, représentants de l'industrie, des commerces de gros, des transports, etc. Le deuxième groupe, c'est le groupe des salariés, donc représentant les travailleurs d'Europe à travers leurs organisations syndicales. Et le troisième groupe, alors c'est plus divers, activités diverses, donc composées de membres de professions libérales, de représentants de consommateurs, de l'économie sociale aussi, des familles et des organisations non gouvernementales. Alors on dit que le Comité économique et social européen est la voix de la société civile de l'Union européenne.
Alors,
s'agissant du comité des régions.
Des régions, voilà.
Des régions, très bien, j'y viens, Jean-François. Lui, il assure la représentation institutionnelle de l'ensemble des territoires de l'Union, région, ville, commune, et ses membres sont des élus régionaux et locaux, et on dit qu'il est la voix des autorités locales. Il y a une troisième différence qui, elle, a trait aux missions. Le Comité économique social européen remplit 3 missions principales. Il conseille la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Pour cela, il se réunit 9 fois par an en assemblée plénière. Et cette assemblée approuve les avis à la majorité simple, près de 170 avis quand même par an. Hein. Ces réunions sont préparées par des sections thématiques spécialisées, 6 sections thématiques, je ne donne pas la liste, hein, ce serait un peu rébarbatif, mais qui traitent de tous les aspects de la vie économique et sociale. En contact étroit avec les conseils économiques et sociaux régionaux et nationaux de toute l'UE, il veille à ce que les points de vue de la société civile sur la législation européenne et ses effets économiques et sociaux soient bien entendus à Bruxelles. À cette fin, il publie des rapports d'information qui, une fois de plus, sont consultables. Enfin, en demandant à ses membres de trouver un terrain d'entente sur chaque sujet et de résoudre les conflits d'intérêts entre les différents groupes économiques et sociaux, le Comité économique social européen travaille à la cohésion européenne. Alors, le comité des régions, lui, a 2 missions. Il est le porte-parole des intérêts des territoires de l'Union, dont il assure la représentation donc institutionnelle à Bruxelles. À ce titre, il est consulté pour toute proposition touchant l'échelon régional ou local, et particulièrement sur les questions de coopération transnationale. Coopération entre les différentes régions des différents États membres de l'Union. Par ailleurs, le comité des régions émet des avis sur les propositions de la Commission concernant de très nombreux domaines fixés d'ailleurs par le traité. Alors, c'est les transports, l'emploi, le Fonds social européen, la culture, la politique d'éducation, la formation, etc. Ces avis sont préparés par 6 commissions spécialisées, parmi lesquelles la COTER, la politique de cohésion territoriale. Ces avis sont approuvés en assemblée plénière à raison de 5 réunions par an. Alors, une précision, depuis le traité de Lisbonne, le comité des régions peut déposer un recours pour violation du principe de subsidiarité contre des actes qui, selon lui, seraient contraires à ce principe. Alors, au total, ces comités, bien que seulement consultatifs, eh bien, on se rend compte qu'ils jouent un rôle en tant qu'outil d'intégration et aussi de démocratie participative, et ça n'est pas négligeable en Europe.